VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir l'Afrique, Idrissa Seydou Diaye, Morgane Guiriac au micro, édition du vendredi 10 avril 2015. À la une ce soir.
En RDC, encore des sceptiques malgré les explications des autorités sur la fosse commune de Maluku.
Il y a une procédure qu'on a toujours observée lorsqu'on a fait les indigents. Cette fois-ci, on va faire ça uniquement d'une façon précipitée. Donc c'est un problème à une chance.
Démarrage officiel aujourd'hui au Togo de la campagne pour l'élection présidentielle du 25 avril.
71 soldats tchadiens tués, 416 blessés dans l'offensive lancée début février contre Boko Haram au Nigeria.
Rencontre historique attendue entre le président Obama et le cubain Raúl Castro au sommet des Amériques à Panama City.
Arrivée d'avions chargés de médicaments et de matériel médical pour la première fois à Sanaa au Yémen depuis le début des frappes aériennes de la coalition saoudienne il y a 17 jours.
Dans quelques instants, la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal.
Nous commençons par la République centrafricaine où plusieurs centaines de manifestants ont tenté d'envahir une base de l'ONU à Kaga-Bandoro. L'ONU compte manifestants tués dans les affrontements avec les casques bleus. La MINUSCA, mission de l'ONU en RCA, a procédé à des tirs de sommation contre les manifestants qui ont tenté de mettre le feu à la base. Certains étaient armés de couteaux.
République démocratique du Congo, l'Union européenne demande une enquête urgente, sur la fosse commune découverte à Maluku, dans l'est de Kinshasa. La représentation européenne en RDC, qui dit partager les interrogations récemment exprimées au sujet de cette fosse, se dit prête à soutenir l'enquête. Selon les autorités, la fosse commune ne contient pas de corps de manifestants tués en janvier dernier. Il s'agirait plutôt de mort-nés, de fœtus, de corps abandonnés, d'indigents et de personnes non identifiées. 421 corps qui auraient, d'après Kinshasa, été enterrés pour désengorger la morgue générale de la capitale. Dolly Ibefo, de l'ONG La Voix des Sans-Voix, est loin d'être convaincue.
Nous ne pouvons pas dire que ce sont des indigents qu'on va enterrer notamment. Il y a une procédure qu'on a toujours observée lorsqu'on enterre les indigents. On informe les bourgmestres, certaines autorités judiciaires, et ils vont faire ça la journée. Cette fois-ci, on va faire ça notamment d'une façon précipitée. Donc c'est un problème qui nous choque quand on a parlé de fosse commune de 425 personnes enterrées. Il faut une commission d'enquête, et cette commission doit être une commission mixte et même indépendante. La commune de Maluku, tous ceux qui travaillent là-bas, les magistrats, même les bourgmestres, tout ce monde-là, et ils ne peuvent pas faire partie de la commission. On ne peut pas entendre, par exemple, un magistrat, un procureur de Kinkole ou de Maluku qui doit faire partie de ça. Non, nous soupçonnons tout ce monde-là d'être au courant qu'ils allaient enterrer des gens, notamment.
Dolly Ibefo de l'ONG La Voix des Sans-Voix à Kinshasa.
La campagne électorale a officiellement démarré aujourd'hui au Togo en vue de la présidentielle du 25 avril. Le scrutin verra s'affronter principalement le chef de l'État sortant Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 et l'opposant Jean-Pierre Fabre. Les détails avec Salwa Jafari.
La campagne électorale a démarré à minuit et déjà affiches et posters sont placardés à tout coin de rue. À Lomé, c'est un bras de fer qui s'annonce entre le président sortant, Faure Gnassingbé, et l'opposant Jean-Pierre Fabre. Le scrutin initialement prévu le 15 avril a été repoussé après les plaintes de l'opposition sur de graves anomalies dans le fichier électoral. L'ONG Synergie Togo, basée à Paris, affirme y avoir décelé 30% d'électeurs fictifs. La campagne électorale doit s'achever le 23 avril à minuit. Les forces armées qui vont assurer la sécurité du scrutin voteront par anticipation le 22 avril. Porté au pouvoir à la mort de son père, Faure Gnassingbé avait remporté en 2005 et 2010 les élections contestées par l'opposition. Tous ces scrutins ont été suivis de violences meurtrières. Au cours des derniers mois, le pays a connu de nombreuses manifestations des fonctionnaires, des médecins et des étudiants qui réclament de meilleurs salaires et des élections libres et équitables.
Conséquence de l'adoption d'un nouveau code électoral au Burkina Faso, l'ancienne coalition au pouvoir dirigée par le CDP suspend sa participation au Conseil national de la transition et à la Commission nationale de réconciliation. Quelle est l'importance d'un tel retrait pour la suite de la transition? La réponse du journaliste Newton Ahmed Barry au micro de Bagassi Koura.
Dans un premier temps, ça va, à mon avis, être symbolique, notamment dans le fonctionnement du CNT. C'est vrai que les 10 absents dans le fonctionnement du CNT, ça ne posera pas de problème du point de vue de la représentativité, de la légalité des décisions qui vont se prendre. Mais symboliquement, quand même, c'est un élément important parce que ça foule au pied un peu une des dispositions importantes de la charte, qui était l'inclusion. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, ça va être beaucoup plus compliqué en ce qui concerne la commission de réconciliation, parce qu'on ne se réconcilie pas seul. Si, malheureusement, on ne trouvait pas une solution pour qu'ils reviennent sur la table des négociations, ça deviendrait une réconciliation à sens unique. Ça n'aurait pas de sens. Il n'est pas imaginable qu'on aille là où on est en train d'aller aujourd'hui là pour aboutir à une sorte de clivage du pays en deux camps.
Lutte contre Boko Haram, N'Djamena compte 71 soldats tués et 416 blessés dans l'offensive lancée début février. Cela représente environ 10% des effectifs engagés, indique le chef d'état-major de l'armée tchadienne cité par l'AFP.
Au Kenya, les victimes du massacre de l'université de Garissa commencent à être inhumées. De nombreux étudiants et proches se sont réunis dans une morgue de Nairobi pour leur rendre un dernier hommage. Une semaine après l'attaque, et des parents attendent toujours d'être fixés sur le sort de leurs enfants.
Les migrants africains en difficulté en Afrique du Sud, un millier d'entre eux ont dû fuir leur maison après une série d'attaques violentes à Durban. Les immigrants africains pour la plupart ont été hébergés dans des postes de police et des tentes. Des habitants du grand port sud-africain s'étant juré de les expulser. Écoutons le témoignage de Marc Bafou Bafou, président de la diaspora africaine, qui suit de très près le dossier.
C'est depuis que le roi Goodwill a fait sa déclaration, quand il a dit que les migrants doivent faire leurs bagages et quitter l'Afrique du Sud, les attaques se sont accrues. Quand les gens parlent de Durban, c'est parce que peut-être qu'à Durban, il y a un très grand nombre de personnes qui se déplacent, qui délogent les migrants et parfois même les tuent. C'est pourquoi on parle de Durban. Mais sinon, les attaques xénophobes en ce moment, c'est partout en Afrique du Sud. Et malheureusement, le gouvernement, jusque-là, n'est pas sorti pour envoyer un message fort. Tantôt, certains ministres disent que les migrants doivent nous excuser et d'autres ministres viennent pour condamner. Donc le gouvernement ne parle pas d'une seule voix pour dire qu'ils sont unanimes sur le sujet. Ces attaques-là doivent s'arrêter. Hier nuit, il y a eu 3 Éthiopiens qui ont été tués à Durban. Les gens disent même que maintenant, les autorités veulent cacher, quand les migrants sont tués, ils veulent cacher pour ne pas que l'opinion internationale sache.
Au accident de la route au Maroc, un bus est entré en collision avec un camion à 1000 km au sud-ouest de la capitale Rabat. Bilan, 33 morts, dont de nombreux enfants.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Maison-Blanche annonce que le président Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro doivent se voir samedi lors d'une rencontre historique au sommet des Amériques à Panama City. Selon le conseiller national en matière de sécurité, Ben Rhodes, les deux leaders se rencontreront pendant le sommet, mais il a dit que des pourparlers bilatéraux officiels n'ont pas été programmés à ce stade. Des responsables cubains et américains ont confirmé que M. Obama et Castro se sont parlé par téléphone mercredi. M. Obama a décidé il y a 4 mois de normaliser les relations avec La Havane. Et nous y reviendrons avec l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique au Panama.
Deux avions chargés de 32 tonnes d'aide médicale ont atterri aujourd'hui au Yémen, où l'ONU réclame une pause humanitaire dans les combats pour venir au secours des civils affectés par le conflit. Les cargaisons de médicaments et de matériel médical sont les premières à être débarquées par voie aérienne à Sanaa depuis le début, il y a 17 jours, des bombardements de la coalition de 9 pays conduite par l'Arabie Saoudite.
8 personnes sont mortes vendredi dans 2 attaques à Bagdad et dans ses environs, l'une près d'un hôtel et l'autre dans un restaurant, a indiqué la police. De telles attaques étaient quasi quotidiennes l'an passé à Bagdad, mais elles ont nettement diminué cette année à la suite du démantèlement d'une cellule du groupe État islamique accusé d'en être responsable.
En Afghanistan, un kamikaze a tué 4 civils et blessé 12 autres lors d'une attaque contre un convoi des forces américaines dans l'est du pays. L'attentat a eu lieu près de l'aéroport de la capitale provinciale de Jalalabad.
Et ici aux États-Unis, Hillary Clinton va annoncer officiellement dimanche sur les réseaux sociaux et par vidéo sa candidature à la présidentielle de 2016 aux États-Unis. Elle pourrait ensuite se rendre dans les États de l'Iowa et du New Hampshire, où commenceront les premières consultations de ces primaires. C'est ce qu'a dit la presse américaine, qui donne l'ancienne secrétaire d'État déjà grande favorite chez les démocrates. Il s'agira de la seconde tentative de l'ex-première dame, qui avait perdu les primaires de 2008 face à Barack Obama. Si Mme Clinton venait à l'emporter l'année prochaine, elle serait la première femme de l'histoire des États-Unis à être élue présidente.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Nathalie Barge.
Lors du colloque à Dakar sur les investissements chinois en Afrique, le ministre malien du développement rural, Denan Kassoum, a plaidé en faveur de l'entreprise agricole familiale, rapporte le journal Le Soleil. L'agriculture industrielle ne doit pas inhiber l'effort de l'agriculture vivrière pour atteindre l'autosuffisance alimentaire des populations, a déclaré jeudi M. Kassoum. Un secteur très prometteur en Afrique, l'énergie géothermique ou énergie issue de la chaleur du sous-sol, offre d'excellentes opportunités pour la production et la transformation des aliments et renforcerait ainsi la sécurité alimentaire, selon un nouveau rapport de la FAO. Florence Tartanac, experte en agro-industrie.
C'est en effet une source d'énergie qui est renouvelable, propre et qui permettrait donc de booster certains secteurs de l'agriculture ou même de l'agro-industrie qui auraient besoin de sources d'énergie supplémentaires pour arriver à nourrir une population croissante sur notre planète.
En Côte d'Ivoire, lancement à Abidjan des travaux de construction d'une zone industrielle moderne aux normes internationales. La demande de terrain industriel des opérateurs économique est très forte dans un contexte de rareté, a déclaré le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan lors du lancement jeudi.
La Minute Éco avec Nathalie Barge, merci.
Les sports avec Bagassi Koura Bagassi dans le classement FIFA. L'Algérie recule sur le plan mondial.
Oui, la FIFA a actualisé hier son classement mondial. Si l'Algérie reste numéro 1 sur le continent africain, elle quitte le top 20 du classement mondial. La Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Mali, le Maroc, l'Afrique du Sud et la RDC sont également en baisse.
Et puis, le championnat du Sénégal.
Oui, ça c'est chez vous. Hein. Défaite 1-0 hier sur son terrain de l'AS Pikin face au club de Jigensor, le Casasport. À suivre ce vendredi, le duel entre les deux premiers du championnat. Niari Tali, le leader, reçoit l'US Wakam.
Niari Tali. Voilà, c'est le Burkinabé qui parle Wolof, là. Niari Tali. Ça veut dire les deux rues, hein, littéralement.
Ah, ok, je pensais qu'on dit allons en Italie.
Didier Drogba et d'autres stars joueront un match au profit du PAM.
Oui, c'est de l'humanitaire. Hein. L'attaquant de Chelsea, Didier Drogba, participera donc le 20 avril à Saint-Étienne, en France. À un match organisé au profit du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Selon l'AFP citant le PNUD, Drogba sera en compagnie des anciens champions du monde Ronaldo et Zinedine Zidane. Et ce n'est pas tout, ce 12e match contre la pauvreté réunira également d'autres stars désormais retirés de la compétition comme le Brésilien Cafu, le Néerlandais Clarence Seedorf et les Français Christian Karambe, Youri Djorkaeff et Fabien Barthez.
La NBA pour terminer le championnat de basketball nord-américain.
Oui, il y avait deux matchs seulement. Hein. Chicago a battu Miami 89 à 78. Et de l'autre, dans l'autre rencontre de la soirée, Portland sur le parquet des Golden State Warriors. Warriors qui s'impose 116 à 105.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydoudia et Morgan Diriek en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Idrissa, le Mali.
Oui, les rebelles Touareg s'engagent à paraffer l'accord d'Alger du 1er mars 2015, un document déjà paraffé par le gouvernement malien et la plateforme des groupes d'autodéfense. La coordination des mouvements de l'Azawad est prête à signer le document le 15 avril prochain à Alger, nous dit Kassim Traoré.
Cela fait quelques mois qu'il a quitté le MNLA pour être dans la plateforme. Il est le premier à rejoindre les loyalistes avec armes et bagages. Il s'agit de Hassan Mehdi, connu sous le sobriquet de Jimmy. Il est le secrétaire général du Front populaire de l'Azawad, FPA.
Les motivations que j'ai aujourd'hui sont celles d'aller vers la raison, sont celles d'accompagner ceux qui veulent CVCP. L'appel que je lance aujourd'hui, c'est celui d'aller vers l'avant. Aujourd'hui, aller vers l'avant, c'est de dépasser ce stade de stagnation qui ne permet à personne d'aller vers l'avant. Et sans exception, le Mali a besoin de tous ses enfants, de tous ses fils, qu'il résout ses problèmes et qu'il rebâtisse ce que nous tous nous avons détruit.
En 3 ans de crise, il y a eu des réfugiés, des déplacés à gérer, des combattants qui sont fatigués, tout comme ceux qui sont venus aider le Mali à sortir de cette crise. C'est pourquoi l'accord d'Alger est une bonne piste vers la paix.
Il est bon aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il doit sauver des millions et des millions de personnes. Il est bon aujourd'hui parce que c'est notre problème. C'est nous qui devrons savoir s'il est bon, parce que c'est nous qui en souffrant. C'est cette communauté qui souffre, c'est ces réfugiés qui souffrent. Tout le monde va aller d'abord vers la raison. Parce que nous nous sommes retrouvés éparpillés, découpés par tranches. Des coordinations, des plateformes, un gouvernement. Or que c'est un État qui est là, qui a besoin de se ressouder, se compléter. Tous ses fils, sans exception, doivent se sentir de ces pays.
Le secrétaire général du Front populaire de l'Azawad pense que la signature de l'accord permettra d'éviter des attentats, les actes isolés que l'on constate actuellement dans les villes du Mali. Mieux, les combattants de chaque groupe armé seront localisés et cantonné.
Un cantonnement permettra de localiser et de savoir où sont positionnés les différents combattants. Mais là où le problème va mieux, c'est l'étape où qui va permettre aux gens de se rencontrer. Cet accord doit être signé parce qu'il est quelque chose qui peut constituer un blocage à tout individu ou à tout acte isolé. Il n'a pas seulement que des amis, il y a ceux qui ne veulent pas là. Se ressouder, se donner la main, envie de faire face à ce qu'on a devant soi.
Hassan Mehdi reste confiant en l'avenir du Mali.
Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est de se dire d'abord la vérité. C'est la dire individuellement. Aujourd'hui, il faut que le pays soit rebâti. Et il ne va être rebâti qu'avec ses fils soudés. Il faut que les gens se comprennent. Il faut qu'ils arrêtent de se chamailler. Aujourd'hui, ce pays peut constituer l'armée la plus forte du monde. Si ses fils se retrouvent, ils se disent la vérité et que chacun d'eux se sente malien. Et à partir de cette étape-là, nous ferons tous face à tout ce qui va essayer de détruire ce pays.
Le secrétaire général du Front populaire de l'Azawad reste optimiste, même s'il sait qu'il y a beaucoup d'autres ambitions sur la route vers la paix. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
L'Afrique ne peut compter que sur elle-même pour se nourrir. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur chinois au Sénégal lors d'un colloque international tenu hier et aujourd'hui à Dakar sur le thème la Chine et les investissements dans le secteur agricole en Afrique. Ce colloque a été organisé par son ambassade en collaboration avec le CODESRIA, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. Idrissa Seydoudia a parlé au directeur du CODESRIA, le professeur Ibrahim Assal.
La Chine a une expérience intéressante parce qu'elle s'est appuyée essentiellement également sur son agriculture pendant très très longtemps pour passer d'une situation de crise grave et répétitive, des crises alimentaires, des problèmes de sécurité alimentaire sérieux, à la situation dans laquelle elle est maintenant. Et l'agriculture a servi dans ce cas-là, non seulement à répondre aux problèmes de sécurité alimentaire, mais également à être l'un des socles du processus de développement de la Chine. Nous disons qu'en Afrique, c'est une voie prouvée, testée et prouvée, non seulement en Chine, mais également ailleurs, il est important que nous prenions une voie similaire. Alors, c'est à l'Afrique de développer son agriculture. On devrait, avec l'intérêt que la Chine porte à notre agriculture, justement savoir comment orienter les investissements chinois et comment faire en sorte qu'il y ait des partenaires africains crédibles qui se mettent avec les investisseurs chinois pour que, justement, les investissements puissent profiter à l'Afrique de la meilleure manière possible.
Il a dit que l'Afrique ne peut que compter sur elle-même pour se nourrir. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'il a raison. Nous n'attendons pas du reste du monde de nous nourrir nous-mêmes. Il est temps que nous comprenions que la responsabilité première pour la satisfaction de nos besoins alimentaires et de nos besoins de développement est notre responsabilité. Et que maintenant, en essayant de prendre en charge ces responsabilités, de répondre à nos besoins, nous avons des partenariats et qui ne peuvent être qu'un appoint par rapport à l'effort que nous devons fournir au niveau du continent africain.
Dernière question. Est-ce que l'autosuffisance en riz en 2017 est un objectif réaliste pour le Sénégal?
Il me semble que ce qu'il faut retenir d'une affirmation comme celle-là, c'est qu'il y a une volonté politique réelle d'arriver ou d'évoluer vers l'autosuffisance en riz. Alors que ça soit un objectif à réaliser en 2016, en 2017 ou en 2018, me semble moins important que le fait de dire qu'on est résolument déterminé à arriver à l'autosuffisance alimentaire. Je crois que c'est possible.
Le professeur Ibrahim Assal, le directeur du CODESRIA, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le 7e sommet des Amériques s'est ouvert aujourd'hui à Panama City, en Amérique centrale. C'est la première fois depuis 1994 que les 35 États membres sont réunis au grand complet. Cuba, qui avait été exclu en 1962 de l'Organisation des États américains, est redevenu fréquentable. Ce qui donne à cette rencontre un caractère historique. Idriss Fall a joint sur place Luis Ramirez, envoyé spécial de la VOA à Panama.
C'est la première fois dans l'histoire du sommet que Cuba sera participant. Ça, c'est la pétition des autres pays de l'Amérique latine qui ont demandé aux États-Unis de finir cette situation où Cuba n'avait pas permis de participer dans ce sommet. Ce sera la première fois aujourd'hui que le président Obama rencontrera au président cubain Raúl Castro.
Est-ce qu'ils auront un tête-à-tête, Raúl Castro, Barack Obama ou bien?
Les officiers de la Maison-Blanche ont dit qu'il y aura plusieurs des opportunités pour l'interaction, mais ils ont dit qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de programme, une séance officielle entre les deux mandataires.
Et qu'en est-il avec le président du Venezuela alors?
Il n'y a pas une séance formelle ou informelle entre le président Obama et le président Maduro de Venezuela. C'est un moment où les relations entre les deux pays sont très très mal à cause des accusations des États-Unis de violations aux droits humains dans le Venezuela.
Mais quelle est l'importance de ce sommet donc?
C'est un sommet très important pour les États-Unis parce que ça sera la première fois que Cuba vient à la table. Pour les États-Unis, ça c'est une opportunité de réaffirmer son rôle comme leader dans cette organisation. Ce rôle a été diminué à cause des problèmes économiques des États-Unis et l'engagement croissant de la Chine dans cette région. C'est vraiment une grande rencontre entre les chefs d'État des 35 pays de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud. Mais le sujet le plus important ici, c'est la participation de Cuba par la première fois. Pour les États-Unis, c'est un sujet très, très important. Après que le président Obama a annoncé le rapprochement en décembre, où il veut normaliser les relations entre les deux pays depuis plus d'une demi-siècle. Il y a beaucoup d'obstacles à surmonter ici. Le plus grand, c'est le fait que le Cuba, son nom est déjà dans la liste des pays qui soutiennent le terrorisme. Le président Obama a dit qu'il veut supprimer le nom de Cuba de sa liste, mais ça c'est un processus très long, très compliqué. Il n'a pas encore annoncé qu'il va faire ça, mais il a donné beaucoup d'indications que ça c'est en train de se passer.
Luis Ramirez, envoyé spécial de la VOA à Panama City.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Oh. musique, pour terminer en musique, nous irons en Côte d'Ivoire, car Abidjan vit au rythme du reggae. Depuis hier, la capitale économique accueille Abi Reggae, son tout premier festival international de reggae. Plusieurs artistes francophones, anglophones et lusophones sont conviés et des experts se proposent de produire des textes de base qui contribueront à l'édition d'un livre de référence sur cette musique. Le reportage de Germain Dri.
Dans cette ambiance que le premier festival international de reggae d'Abidjan a démarré avec une multitude d'artistes venus égayer l'assistance, s'imprégner de l'histoire musicale de la Jamaïque, puis sur le sort de l'industrie musicale dont le réseautage aura permis la conquête mondiale du reggae. Abi Reggae est donc loin d'une rencontre de distraction. Dosso Moussa, président fondateur du festival.
En initiant cette rencontre internationale de la culture, où des éminents penseurs, philosophes, viendront débattre et échanger sur l'idéologie de la musique reggae. Je voudrais reprendre à mon compte une volonté chère à Bob Marley. Notre ambition est de faire d'Abidjan un lieu de pèlerinage pour tous les Afro-Américains venant de la Jamaïque, des Caraïbes, des États-Unis, qui aiment le reggae, qui ont la nostalgie de l'Afrique, leur Afrique, le berceau de l'humanité.
Madame Olivia Grange, ex-ministre jamaïcain de la jeunesse qui conduisait une forte délégation, estime qu'Abidjan est un nouveau départ.
It is the dawn of a new day because today we have assembled here in Abidjan.
C'est un jour nouveau car aujourd'hui à Abidjan, nous sommes assemblés ici avec un aéropage impressionnant de quelques-uns des cerveaux les plus brillants, des génies de la musique les plus extraordinaires, pour partager leurs expertises, leurs connaissances intellectuelles uniques et leurs perspectives culturelles.
Pour Madame Pascaline Bongo et Odimba, marraine de cette manifestation, le reggae est la musique qui proscrit la violence.
J'ai un lien profond avec cette musique qui unit les hommes au lieu de les diviser. Et qui permet des décloisonnements, source de fraternité entre les hommes. Sur un plan collectif, le message du reggae se veut planétaire, voire universel, puisqu'il s'adresse à tous les peuples opprimés du monde, désireux de se libérer dans la dignité et dans la paix et non par la guerre.
Quant au professeur Elikia Mbokolo, il pense que tous les atouts doivent être utilisés dans la lutte pour les identités libres.
Il faut continuer à se battre en utilisant toutes les armes que nous possédons. Et les armes, ce ne sont pas seulement la lutte politique ni les luttes sociales. C'est aussi, bien sûr, la musique, parce que la musique rassemble, la musique permet de se réjouir et d'imaginer l'avenir.
L'artiste Zoromé Seydou espère que ces rencontres pourront impacter positivement sur les artistes du reggae.
Grâce à ce genre d'événements, je pense que ça va soigner d'abord l'image de Rasta.
Le programme d'Abi Reggae prévoit une brochette d'artistes chaque soir, et ce jusqu'au dimanche. Germain Dri, Abidjan, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Eh bien, disons que tout de suite, plusieurs centaines de manifestants ont tenté d'envahir en République centrafricaine une base de l'ONU à Kagabandoro. L'ONU compte un manifestant tué dans les affrontements avec les casques bleus.
République démocratique du Congo, l'Union européenne demande une enquête urgente sur la fosse commune découverte à Maluku, dans l'est de Kinshasa. La représentation européenne en RDC, qui dit partager les interrogations récemment exprimées au sujet de cette fosse, promet de soutenir l'enquête.
La campagne électorale a officiellement démarré aujourd'hui au Togo en vue de la présidentielle du 25 avril. Le scrutin verra s'affronter principalement le chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, et l'opposant Jean-Pierre Fabre.
Conséquence de l'adoption d'un nouveau code électoral au Burkina Faso, l'ancienne coalition au pouvoir dirigée par le CDP suspend sa participation au Conseil national de la transition et à la Commission nationale de réconciliation.
N'Djamena compte 71 soldats tués et 416 blessés dans l'offensive lancée depuis début février contre Boko Haram au Nigeria.
À la mise en onde ce soir, Michel Joseph, Idrissa Seydou Dia et Morgane Guiriec à la présentation.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.